France Culture.
18h précise sur France Culture. Le journal Estelle Caméraire. Bonsoir Estelle.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Direction Jérusalem, en début de ce journal, Israël menace d'intensifier ses attaques au Liban contre le Hezbollah que Benjamin Netanyahou accuse de se réarmer. Reconstruire avec plus de force encore les installations nucléaires bombardées par Israël et les États-Unis, selon les mots du président iranien, nous irons à Téhéran. Dernier jour au salon du chocolat à Paris. Les professionnels du secteur tentent de remédier au coût environnemental et social du cacao. La tension monte à la frontière israélo-libanaise alors que Benjamin Netanyahou affirme que le Hezbollah serait en train de se réarmer. Le Premier ministre israélien met une pression maximale sur le gouvernement libanais pour qu'il agisse contre le groupe islamiste. Les précisions de Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture.
Le ton a été donné dès l'ouverture du Conseil des ministres à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a rappelé le Liban à son engagement de désarmer le Hezbollah. « Nous ne permettrons pas au Liban de redevenir un nouveau front contre nous », a-t-il averti, affirmant qu'Israël exercera son droit à l'autodéfense. Un avertissement doublé d'une menace à peine voilée du ministre de la Défense Israël Katz. Sur les réseaux sociaux, il accuse le Hezbollah de jouer avec le feu et le président libanais de traîner des pieds. Katz menace d'intensifier les attaques, précisant que l'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Alors c'est une escalade verbale qui intervient au lendemain d'une frappe israélienne dans le sud du Liban. L'armée affirme avoir éliminé 4 membres d'une unité d'élite du Hezbollah, la force Radwan. Ces attaques et ces menaces fragilisent le cessez-le-feu conclu en novembre 2024, et cela alors que l'émissaire américain Tom Barak encourage le Liban à engager des négociations directes avec Israël.
Michel Paul, depuis Israël, et le Hamas vient tout juste d'annoncer qu'il allait rendre 3 corps d'otages israéliens. Le pape Léon XIV réitère son appel au cessez-le-feu et à l'ouverture de couloirs humanitaires au Soudan, où la guerre civile devient de plus en plus sanglante. Depuis avril 2023, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts. Hier, des rescapés de la ville d'El Fasher, à l'ouest du pays, ont rapporté que les paramilitaires du FSR, les forces de soutien rapide, devenues maîtres de la ville en octobre, multiplient les meurtres et les kidnappings. L'Allemagne s'alarme d'une situation, je cite, d'absolument apocalyptique sur le terrain. Donald Trump va-t-il intervenir au Nigeria ? C'est en tout cas une menace du président américain. Si le Nigeria, dit-il, n'arrête pas des meurtres de chrétiens commis par des terroristes islamistes, des idées véhiculées par des élus américains conservateurs qui estiment que les chrétiens du Nigeria font face à un génocide, notamment par Boko Haram. Pour rappel, le groupe djihadiste a fait plus de 40 000 morts et déplacé plus de 2 millions de personnes depuis 2009, selon l'ONU. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu nie les accusations, mais propose une rencontre à Donald Trump. Il salue également toute aide américaine contre le terrorisme. Les États-Unis, qui avaient bombardé en juin les installations nucléaires iraniennes aux côtés d'Israël. 4 mois après les frappes, le président Massoud Pezeshkian a affirmé que l'Iran avait allé reconstruire son programme nucléaire avec plus de force encore. La correspondance depuis Téhéran de Siavash Ghazi.
C'est la première fois que le président iranien fait une telle déclaration. La destruction de nos bâtiments et de nos usines ne nous posera aucun problème. Nous allons les reconstruire avec encore plus de force, a déclaré le président Pezeshkian. Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il ordonnerait de nouvelles frappes sur le site nucléaire iranien si Téhéran tentait de redémarrer les installations bombardées en juin. Les États-Unis ont en effet bombardé les sites nucléaires de Fordou, Natanz et Ispahan, rejoignant Israël dans la guerre lancée contre l'Iran. Samedi, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que Téhéran refusait d'engager des négociations directes avec les États-Unis sur son programme nucléaire ou encore balistique, rejetant en quelque sorte les demandes du médiateur omanais. Téhéran refuse en effet de renoncer à son programme d'enrichissement d'uranium ou encore limiter la portée de ses missiles, comme cela a été demandé par les États-Unis.
Siavash Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran pour France Culture. La police britannique a écarté la piste terroriste après l'attaque au couteau dans un train en direction de Londres hier, qui a fait 10 blessés, dont 2 sont toujours en urgence absolue. Au moins 6 morts cette nuit en Ukraine, tués dans des attaques de drones russes, selon les autorités locales. Moscou poursuit ses attaques terrestres sur le front et a relancé une campagne de bombardement ciblée contre le système énergétique ukrainien. De son côté, ce matin, Kiev a frappé des installations pétrolières dans un port sur la mer Noire. Et juste après ce journal, Frédéric Martel revient sur l'Ukraine dans un soft power spécial, des drones à l'orthodoxie, les différents fronts ukrainiens. 18h05, vous écoutez France Culture. Demain, 9h, l'examen du budget 2026 et de sa partie recettes reprend dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour une dizaine de journées de débats entre députés qui doivent, dès mardi, aborder le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Plus de 2000 amendements restent encore à discuter. Dès lors, difficile d'imaginer que la partie 1 du budget soit adoptée d'ici demain soir et que l'ensemble du budget le soit dans les délais constitutionnels imposés. Les députés en ont en effet 40 jours pour se prononcer en première lecture. Écoutez le député Les Républicains, Philippe Juvin, rapporteur général du budget.
Si l'Assemblée n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget, recettes, dépenses, le texte va au Sénat. Eux ont plus de temps, paradoxalement, parce qu'ils ont commencé, ils ont le texte depuis plus longtemps que nous. Ils vont le voter. Ils vont arriver avec un texte dans une assemblée commune entre l'Assemblée et le Sénat qu'on appelle la commission mixte paritaire, 14 députés sénateurs qui essayent de se mettre d'accord sur un texte, et c'est la commission mixte paritaire qui devrait accoucher d'un texte, et c'est ce texte, in fine, qui sera proposé au Sénat et à l'Assemblée au vote courant décembre.
Le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, invité de LCI, qui ne voit pas de majorité dans l'hémicycle pour adopter cette partie recette du budget, quand le député et vice-président du RN, Sébastien Chenu, estime sur France Inter qu'il n'y a pas du tout de chemin pour faire adopter le budget.
Ce budget, il est de briques et de brocs. Ce budget, il n'a aucune cohérence. Ce budget vise à faire les poches des Français. Il ne s'attaque pas aux dépenses toxiques, c'est ça aussi. Ce budget ne s'attaque pas à la dépense de l'immigration. Ce budget ne s'attaque pas à la contribution à l'Union européenne. Ce budget ne s'attaque pas aux agences d'État. Ce budget ne s'attaque pas à l'aide au développement. Donc, si vous voulez, on peut continuer tout ça à l'infini et puis dire aux Français de se serrer jour après jour la ceinture, le cran supplémentaire. Eh bien, nous n'acceptons pas ça.
Sébastien Chenu du Rassemblement national qui appelle toujours à la dissolution. Quand de leur côté, les insoumis appellent à la censure et accusent les socialistes d'avoir changé d'alliance. Ils sont passés de l'alliance avec nous à l'alliance avec Gabriel Attal. Les mots de Jean-Luc Mélenchon ce matin à l'occasion d'un déplacement du leader insoumis dans le Val-de-Marne. Des accusations deux jours après le vote sur l'impôt sur la fortune improductive. L'adoption de cette taxe au rendement incertain a été permise par le vote du PS, du Modem et du Rassemblement national. Rien à ce stade ne permet de penser à une complicité au sein du musée du Louvre. D'après la procureure de Paris, ce matin sur France Info, Laure Becquiot a aussi assuré que toutes les pistes, même celles de marchés parallèles, sont étudiées pour retrouver les 8 bijoux volés. Pour le moment, 4 personnes sont mises en examen. Clap de fin pour le salon du chocolat qui ferme ses portes ce soir. Après avoir fêté ses 30 ans depuis mardi dernier au parc des expositions de Paris, comme chaque année, les amateurs de cacao se bousculent aux portes malgré la crise que traverse cette matière première et son impact social comme environnemental. Problèmes de traçabilité, déforestation, rémunération dérisoire des producteurs et travail des enfants. Aujourd'hui, les professionnels cherchent à y remédier, Lucille Vitrac.
Sur le salon, certains artisans cherchent des solutions pour diminuer leurs impacts. La communication de l'événement met en avant le bean to bar, traduction de la fève à la tablette. C'est-à-dire que les chocolatiers contrôlent l'ensemble du processus de fabrication. Comme Yann Marito, spécialisé dans le chocolat cru, fabriqué avec des fèves travaillées sans torréfaction.
C'est vrai que le réchauffement climatique entraîne beaucoup de bouleversements dans la culture et les récoltes du cacao. C'est très incertain, il y a des pénuries et des augmentations qui sont assez exponentielles. Je me source que sur des petites coopératives qui sont bien sûr en bio, en commerce équitable. Donc on va dire que c'est un réseau un petit peu préservé puisque beaucoup ont agroforesterie. Donc une culture qui est moins fragile et moins sensible aux aléas climatiques que certains cacao pour les industriels.
Pour réduire davantage leur impact environnemental, beaucoup choisissent aussi de transporter leurs fèves à la voile. C'est le cas de Christophe Bertrand, vice-président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France.
J'ai investi dans une petite coopérative maritime qui s'appelle Wincoop, qui va lancer un cargo à voile qui va faire la ligne Madagascar-La France. Et il se trouve que j'achète du cacao malgache, donc je serais ravi de dire, en plus de celui que j'achète de Colombie, qui est déjà transporté à la voile, que ce cacao aussi. Pour le moment, sachant que l'essentiel de ma production, c'est du Cameroun, et que celui-ci, il n'y a pas de ligne maritime entre le Cameroun et la France à la voile, c'est très peu, c'est pas 1% de ma production.
Mais l'empreinte carbone du chocolat reste en grande partie due à la déforestation. L'importation de cacao issu de zones déforestées devrait être interdite dans l'Union européenne d'ici la fin de l'année.
Un mot sur le temps pour finir. Après un dimanche ensoleillé, le temps se rafraîchit. Les températures maximales sont en baisse, entre 7 et 17 degrés attendus dans la soirée. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau, Anthony Thomasson à la technique.